Paul. Donc, les émotions servent finalement à, comme dispositif d'engagement vis-à-vis des autres et servent à établir la confiance. Alors, dans nos relations sociales, on peut aller un peu plus loin aussi et se demander si ces émotions ne servent pas à instaurer des normes sociales ou à garantir le respect des normes en collective. Et il y a certains jeux qu'on appelle les jeux de bien public où les gens doivent contribuer à un pot commun et en général, au bout d'un certain nombre de répétitions, on voit apparaître des freeriders, des gens qui essayent de profiter de la situation. Alors, on se rend compte que si on introduit dans ce type de jeu des punitions, des sanctions coûteuses, eh bien, les joueurs acceptent de gagner moins, de perdre même un petit peu d'argent pour pouvoir punir des freeriders, les personnes qui dévident la norme. Alors, la même étude faite sous scanner vous montre que en fait, les zones du cerveau qui sont activées pendant cette sanction sont les mêmes que celles de la récompense. C'est-à-dire que les zones activées sont celles du plaisir de gagner de l'argent, alors que dans le cas présent, vous perdez de l'argent pour punir quelqu'un qui ne respecte pas la norme. Donc, certains ont parlé du « sweet taste of revenge », la satisfaction de punir quelqu'un qui dévie des normes. Alors, j'introduis de cette manière la question de la neuroéconomie et l'intervention de Sacha. Mais je vais t'envoyer un petit piège avant de démarrer, si tu le permets. C'est dans le dernier numéro de Acteurs de l'économie en Rhône-Alpes, il y a une très belle interview d'Axel Kahn. Il y a aussi une très belle interview de Sacha Bourgeois-Giraud. Et il y a une interview d'Axel Kahn sur l'éthique. Vous connaissez Axel Kahn, grand généticien. Et dans son interview, il parle de la neuroéconomie, justement. Alors, je vais citer juste un petit passage. Il écrit, dit, les adeptes de cette science poursuivent un vœu, connaître avant même qu'elle le sache ce qu'une personne va penser et faire, et se servir de l'information pour maîtriser ses attentes et ses comportements. En d'autres termes, pour prendre l'ascendance sur lui. Car si mieux que vous je connais votre propre réalité, je deviens votre maître. L'enjeu de la neuroéconomie est donc bien de se forger les outils d'une tyrannie renforcée. Alors, je pense que Sacha va nous convaincre.
Je vais essayer
que cette vision est un petit peu particulière.
Oui, merci pour le piège, Marie-Claire. Je vais essayer de garder un sourire authentique malgré ça. Ça va être un peu difficile, je vous avoue. Peut-être que j'y reviendrai en conclusion, parce que je ne pensais pas réagir à ces propos, mais je suis en parfait désaccord avec ce point. Je pense qu'il est en grande partie fantasmatique et j'aurais beaucoup d'arguments à développer contre cette vision de la neuroéconomie comme présentant un danger potentiel de manipulation des esprits. Je pense que ce n'est pas du tout, en tout cas, l'intention des travaux que je vais présenter, qui sont des travaux purement scientifiques, qui visent à éclairer les bases biologiques, quoi, ou neurobiologiques en l'occurrence, du comportement économique. Un point c'est tout, sans visée politique particulière. Ce genre de crainte exprimée là par un grand éthicien, c'est dommage, se trouvait déjà dans les années 60 quand on utilisait des images subliminales dans les contextes électoraux par exemple, et on s'est aperçu que ces images subliminales n'avaient aucun effet en réalité sur le comportement politique des individus. Il y a un petit peu de ce genre de fantasme, je crois, dans la position d'Axel Kahn. Donc maintenant je reviens aux choses sérieuses, si je puis dire, tout en gardant le sourire si possible, et je vais présenter très rapidement deux ou trois expériences de neuroéconomie qui me paraissent importantes et qui vont aller en complémentarité avec les exposés précédents, dans la mesure où je vais essayer de les mettre dans une certaine perspective, qui est comment effectivement les émotions, en particulier les émotions sociales, dont a parlé Marie-Claire dans son introduction, ont été sélectionnées au cours de l'évolution, donc ça à nouveau un argument évolutionnaire, et servent, vous voyez dans mon titre, je dis, de signal d'alarme en cas de danger socio-économique pour l'individu. Alors c'est un titre un peu mystérieux et j'espère que son contenu va se mettre en place. Voilà. Alors voilà le type de manipulation des esprits et quel outil peu coûteux on utilise pour manipuler les esprits des masses. Donc on fait venir des milliers de personnes dans des hôpitaux et on les met sous scanner, c'est une plaisanterie. On utilise par exemple des scanners en imagerie fonctionnelle pour mesurer l'activité neuronale à partir d'un signal d'oxygénation de ces neurones. On utilise des appareils, alors là, le fantasme, elle est manipulée, cette jeune femme. On utilise des casques avec électrodes, c'est une autre technique d'imagerie cérébrale. Donc il y a un ensemble de techniques d'imagerie cérébrale qui sont disponibles pour les chercheurs, plus ou moins disponibles pour les chercheurs dans des hôpitaux, et qui reposent sur des mécanismes physiologiques différents à chaque fois. Et la neuroéconomie cherche simplement à étudier les corrélats neuronaux, cérébraux, l'activité dans certaines aires ou les circuits d'activité du cerveau quand le sujet est invité dans ces conditions expérimentales à accomplir des décisions économiques de type ce qu'on trouve en laboratoire d'économie expérimentale par ailleurs. En fait, des protocoles encore plus simplifiés que ce qu'on trouve en économie expérimentale proprement dite, parce que les contraintes expérimentales sont assez fortes dans ces contextes. Alors, je ne vais pas développer la technologie ni la méthodologie, je vais me poser ma question. Quand nous prenons une décision, en général, le cerveau doit faire un arbitrage entre un système rapide, de traitement assez rapide de la situation. Pour simplifier, on dira que ce système est implémenté dans ces mécanismes rapides sont implémentés dans ce qu'on appellera le système limbique, c'est celui des émotions, et qui est en rose, comme toutes les émotions, sur les émotions positives, j'entends, sur mon schéma, et le système frontal, celui de la rationalité, de la cognition, de la délibération, etc. Et le cerveau a le choix entre ces deux systèmes, on va dire, pour simplifier, pour prendre une décision. Dans la plupart du temps, ces systèmes collaborent, coopèrent, et c'est le cas qu'évoquait Louis Lévy-Garbois d'une contribution positive des émotions à la rationalité. Dans certains cas, il y a des conflits, et la neuroéconomie, en tout cas le genre d'études qui m'intéresse en neuroéconomie, est particulièrement intéressée par ces situations conflictuelles au sein du cerveau, ces crises de décision. Alors, je ne vais pas parler de décision individuelle, je vais parler de décision sociale. Et je vais essayer de me poser une question type quel est le marquage neuronal, une question un peu technique comme ça en apparence, quel est le marquage neuronal, c'est-à-dire quelle est l'inscription neurobiologique en réalité d'une bonne intégration socio-économique de l'individu, c'est-à-dire quand ça marche, du point de vue socio-économique pour lui, quand il coopère, quand il y a de la coopération, quand il y a de la bienveillance par exemple, qu'est-ce qui se passe, et surtout, qu'est-ce qui se passe quand ça ne va pas et quand il sent que ça ne va pas, quels sont les mécanismes d'alarme basé sur des émotions qui sont implémentées neurobiologiquement, qui envoient un signal que ça ne va pas. Alors, premier exemple dont on a déjà discuté, le sens de l'injustice, c'est une émotion sociale extrêmement présente, prégnante, très répandue. C'est rare les gens qui n'ont pas le sens de l'injustice. Enfin, je n'en connais pas personnellement dans mon entourage. J'aimerais bien, je pourrais les manipuler. On a parlé du jeu de l'ultimatum tout à l'heure. Je ne vais pas rappeler ce que c'était, hein, donc c'est un jeu, vraiment le jeu classique en économie expérimentale depuis les années 80. Un joueur a 10 euros, il est invité à en transférer une partie au choix minimal à un autre joueur. Cet autre joueur a un certain pouvoir, il peut accepter l'offre et dans ce cas-là, le transfert se fait, le partage s'effectue comme prévu par le joueur 1. Ou alors il peut refuser cette offre, par exemple sur la base d'un sentiment d'injustice ou d'iniquité, et à ce moment-là, les deux joueurs perdent la somme d'argent. C'est une sorte de punition, finalement, qu'inflige le joueur 2 au joueur 1 en refusant son offre sur une base probablement émotionnelle. Donc ça se passe comme ça, mais Louis en a déjà parlé. Vous voyez, c'est un schéma très simplifié. Alors ce jeu-là, on le met, pour vous dire comment ça marche quand même un petit peu méthodologiquement, c'est simple, enfin simple, on le transpose en stimuli pour imagerie cérébrale, pour scanner, ça donne à peu près ça du point de vue méthodologique. Donc c'est une chronologie de ce qui va se passer sous le scanner. Pendant les 12 premières secondes, le joueur va fixer une croix de fixation pour concentrer son attention perceptive sur ce qui se passe sur l'écran devant lui, alors qu'il est par exemple couché dans le tube. Il voit une photographie de son partenaire avec qui il va jouer. Et puis, ça dure un certain temps, tous ces temps sont bien mesurés pour bien calibrer les données en amont. L'offre de son partenaire dans le jeu de l'ultimatum lui est révélée. Par exemple, là, la partenaire garde 8 dollars, c'est donc une expérience en Amérique, 8 dollars pour elle et 2 dollars au sujet expérimental. C'est pas très fair, c'est pas très équitable, c'est perçu comme inéquitable. Le sujet refuse cette offre perçue comme inéquitable. On mesure l'activité cérébrale précisément dans cet espace de temps où le sujet accepte ou refuse l'offre qui a été faite, et on révèle le résultat. Donc voilà une séquence extrêmement précise et chronologique de ce qui se passe sous le scanner, la manière dont on a mis en place le jeu de l'ultimatum dans ces conditions expérimentales. Des données ensuite, je passe beaucoup d'étapes concernant les traitements des données, et on s'aperçoit, c'est une étude classique, c'est un peu l'étude ou une des études qui a lancé ce mouvement neuroéconomique au début des années 2000, on s'aperçoit, on essaie de regarder, donc finalement là où on a pris les mesures, quelles sont les activités cérébrales significatives qui sont proprement corrélées à l'idée que certaines offres, au fait que certaines offres ont été rejetées et à l'idée qu'elles ont pu être perçues comme injustes. Alors je ne vais pas tout détailler, mais je vais simplement finalement reproduire le message qu'avait utilisé l'article initial de Sandfay en 2003 sur cette expérience, en insistant particulièrement sur ce qui semblait le plus spectaculaire, les activités d'une aire du cerveau qu'on appelle l'insula ou le cortex insulaire, et voilà comment on raisonne. En cas d'offres perçues comme injustes, en cas de refus des offres dans le jeu de l'ultimatum, les activités de l'insula étaient significativement activées par rapport au cas où on acceptait l'offre, par exemple. Et donc on fait un raisonnement, une sorte d'inférence inversée, et on se dit, c'est quoi cette insula ? À quoi ça sert habituellement ? Parce qu'on sait ce que c'est, cette aire du cerveau. Donc on a des bases de données pour comprendre le fonctionnement et les fonctions, en fait, de cette aire du cerveau. Et on dit, voilà, l'activité du cortex, on sait qu'elle est associée avec la douleur et la détresse, donc des émotions extrêmement fortes, vous voyez, ou des états physiologiques extrêmement forts, comme la faim et la soif, des états internes extrêmement primaires, les états émotionnels négatifs, la colère, à nouveau, le dégoût, en termes de goût et d'odeur, quand ça sent mauvais ou quand j'ai envie de vomir, quand j'ai la nausée, c'est cette aire du cerveau qui est mobilisée, qui est impliquée dans ma nausée. Et donc, on se dit, le dégoût émotionnel. Et là, on en vient à faire un raisonnement qui peut être intéressant, qui est un peu métaphorique a priori, mais qui a quand même, à mon avis, un sens littéral qu'il faut prendre au sérieux, c'est qu'effectivement, le sens de l'injustice, ce n'est pas simplement quelque chose d'abstrait, ça a un marquage neuronal et physiologique extrêmement primaire, extrêmement basique, ça fait appel à des fonctions cérébrales qui sont implémentées dans notre vie cérébrale depuis des millions d'années, et le dégoût émotionnel, le sens de l'injustice, est comparable. Bien sûr, il faut être très prudent quand on fait une telle inférence et une telle analogie, mais enfin, ceci dit, ça va dans ce sens-là, est comparable à une réaction extrêmement primitive de dégoût, de colère, au sens très brutal du terme. Le sens de l'injustice, ce n'est pas une abstraction. Ce n'est pas le fruit d'une considération extrêmement raisonnée des états d'inégalité entre les individus. C'est vraiment une réaction primaire. Alors, pourquoi elle est là ? J'ai essayé de m'interroger là-dessus. Je vais prendre un ou deux exemples encore dans ce sens-là. Un autre exemple sur lequel je vais aller assez vite, c'est l'exclusion sociale. Là aussi, j'imagine qu'il y a très peu de gens qui réagissent de manière calme, tranquille, au fait d'être exclus d'un groupe de référence pour eux, ou au fait d'être ostracisés de la société, de perdre leur emploi, de se retrouver en bas de l'échelle, quand ils n'y ont pas été, surtout, dès le départ. C'est une situation extrêmement délicate. Alors, là encore, on va essayer de reproduire de manière approximative, une telle situation dans le contexte du laboratoire et dans le contexte neuroscientifique du laboratoire, et un psychologue australien qui s'appelle Kipling Williams a mis en place un jeu extrêmement simple pour essayer de reproduire un sentiment d'ostracisme, un sentiment d'exclusion. Alors voilà le jeu en question. On dit au sujet, allez sous le laboratoire, il ne va rien se passer, hein. Il ne va rien se passer de plus que ce que vous voyez déjà, et c'est précisément ça le point. C'est-à-dire qu'on dit au sujet, venez jouer, on lui dit, vous voyez les deux petits bonhommes qui sont là, c'est deux personnes qui sont dans la salle à côté, qui veulent jouer avec vous au ballon en fait. Donc ils vont vous passer la balle à un moment donné. Ça ne va jamais arriver. Il y a une autre condition expérimentale où, effectivement, là je ne l'ai pas en animation, c'est encore pire si vous voulez. Les deux joueurs jouent ensemble, tout à coup, ils s'aperçoivent qu'il y a un troisième, c'est le sujet expérimental qui est là, donc ils lui passent la balle, une fois, deux fois, puis après, allez, ça suffit. Ils se remettent à jouer comme ça. Donc là, bizarrement, et on l'a mesuré indépendamment, il y a un véritable sentiment d'exclusion pour une chose aussi bête que ça, il y avait une attente d'intégration, elle a été déçue, ou alors pire, il y a eu une inclusion au départ, et puis elle est déçue, cette inclusion, il y a un ostracisme qui s'opère, et là, c'est pas rien. ça vous fait peut-être un tout petit peu sourire, mais en réalité, les sujets ne sourient pas quand ils sortent de cette expérience. Ils sont très malheureux, bizarrement, très malheureux. Alors, on a mesuré leur activité cérébrale, et c'est un papier qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle « Est-ce que le rejet, est-ce que l'exclusion fait mal ?» Une étude de l'exclusion sociale en imagerie fonctionnelle. La réponse est oui, mais une fois de plus, un peu comme pour le dégoût, dans un sens extrêmement littéral. Au sens où les activités cérébrales qui étaient associées à l'exclusion sociale dans ce simple jeu étaient des activités du cortex singulaire antérieur qui sont liées proprement au traitement littéral de la douleur physique. Donc là encore, il faut être prudent dans les inférences inversées qu'on fait, c'est-à-dire dans les inférences, on sait à quoi sert une certaine... On connaît la fonction préalable d'une certaine aire du cerveau. On la retrouve dans un protocole qui, a priori, traite d'autres choses, et on fait une inférence entre les deux. Là, l'inférence se fait entre douleur physique et douleur sociale, mais je crois qu'il faut réfléchir sur cette inférence, et encore une fois, parler d'un marquage neuronal assez primaire, assez primitif, assez ancien, des phénomènes sociaux et des émotions sociales. Troisième exemple, dans un sens un peu différent, pour terminer, avant de conclure, ce dont a parlé Marie-Claire, dans sa présentation de mon exposé, la punition altruiste, le doux goût de la revanche, de la vengeance, ce que j'appelle ici le plaisir de la sanction sociale, c'est la même chose. Effectivement, il y a des jeux très connus en économie, où, par exemple les jeux de confiance ou les jeux de bien public. Je passe sur cette idée-là, on confie quelque chose à quelqu'un, on attend un retour sur ça, ça se produit ou ça ne se produit pas, pour simplifier la situation. On répète ce jeu plusieurs fois. Si on a face à nous un partenaire qui s'avère peu coopératif, assez inéquitable, et qu'on a la possibilité dans ce jeu-là, au coup suivant, de le punir, d'infliger une punition, et quand bien même infliger cette punition aurait un coût financier pour nous, on éprouvera une forme de plaisir à exercer ce droit de punir, probablement dans le but de restaurer une norme de coopération entre les individus dans ce jeu. Alors là, à nouveau, on va faire une expérience en imagerie fonctionnelle. On va contraster des conditions expérimentales, une condition dans laquelle on peut punir et une condition dans laquelle on ne peut pas punir le joueur qui ne coopère pas. Et puis on va soustraire les activités cérébrales entre la condition où on peut punir et la condition où on ne peut pas punir. Et ça va donner ça. Ce qui reste, quand on peut punir un partenaire non coopératif dans un tel jeu d'économie expérimentale, ce sont des activités cérébrales liées au plaisir, liées effectivement au plaisir d'infliger, en l'occurrence, une sanction sociale. Donc punir fait du bien, dans ce cas-là. Mais il fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que là encore, il faut prendre la chose de manière extrêmement littérale. Je ne sais pas s'il y a des orgasmes en laboratoire, mais ces circuits neuronaux du plaisir sont liés véritablement à l'activité sexuelle, voire à la consommation de la drogue, ou alors au gain d'argent significatif. Donc c'est à nouveau le même type de raisonnement. Le cerveau va utiliser, si vous voulez, des mécanismes très anciennement implantés, liés au traitement extrêmement primitif, primaire, basique, des plaisirs et des peines, et là je prends un vocabulaire philosophique classique à dessein, au traitement primitif des plaisirs et des peines, pour finalement réguler notre insertion dans la vie économique et dans la vie sociale. Donc la neuroéconomie, c'est pas la manipulation des masses, c'est pas la manipulation des esprits, c'est l'étude de l'évolution du cerveau, ou du recyclage, plus exactement c'est la thèse que je défends dans mes travaux actuellement, du recyclage d'anciennes aires cérébrales liées à des traitements relativement primitifs des circonstances émotionnelles hédoniques dans lesquelles on est inscrit depuis toujours, et il a fallu les recycler pour s'adapter à la vie économique moderne, au moins depuis le néolithique en tout cas. Et donc ça ne va pas chercher très loin, ces mécanismes s'implémentent là où effectivement il y a un sentiment d'urgence, il y a un traitement de l'urgence qui est opéré par le cerveau. C'est pour dire que la vie économique, effectivement, on ne peut pas la dissocier de la vie émotionnelle, on ne peut pas la dissocier de la vie biologique, au sens où ce qu'on fait finalement c'est recycler ces vieilles fonctions dans notre comportement économique les plus sophistiqués, les plus élaborés aujourd'hui. Voilà, c'était ça mon message essentiellement.
On est assez convaincu qu'effectivement l'évolution de l'être humain répond en partie à l'évolution des émotions et de ces processus. Peut-être que notre ancêtre cueilleur chasseur avait surtout des émotions liées à la peur de la faim, à la peur de l'ennemi. Nos conditions de vie ont beaucoup changé bien sûr, et nous pensons évidemment au stress, au rôle du stress dans dans la genèse de nos émotions. Et un des effets du stress, c'est de perturber notre sommeil. Donc je voudrais demander à David Dickinson maintenant quel est l'impact de cette privation de sommeil sur la qualité de nos décisions et la nature de nos émotions.
Merci Marie-Claire, merci à tout le monde pour venir ici. Vous avez la privilège, je ne sais pas, distinction d'entendre tout ça pour la première fois en français. Voilà, vous allez me pardonner les erreurs et tout ça. Mais je suis heureux d'être ici. Bon, c'est sûr que on a des données, des sondages qui nous disent que bon, on dort de plus en plus moins comparé à il y a beaucoup des années. Ça a commencé au milieu du XXe siècle avec à peu près 9 heures de sommeil par nuit, je crois. Et maintenant, on est beaucoup moins que ça, et en fait il y a des données françaises, des données des États-Unis, on dirait que dans des pays industriels c'est un peu pareil, on dort 7 heures par nuit, un peu moins que ça, et c'est important pour moi parce que c'est la fatigue qui compte. Et bon, on peut souffrir de la fatigue à cause de la privation de sommeil, ou bien le temps de la journée aussi. Mais c'est important, point de vue la prise de décision, parce qu'il y a de la recherche dans la psychologie et un peu de la recherche en économie, avec des collaborations avec des psychologues en sommeil, qui disent qu'il y a des décisions dans des domaines différents qui sont... Qui change quand on a moins des ressources cognitives à cause de manque de sommeil. Et voilà, on a privation de sommeil, je vais parler un peu de ça. Aussi, j'aimerais bien vous montrer, c'est trop petit pour voir les mots qu'il y a, mais ça c'est une image d'un livre qui s'appelle « Sleep Thieves ». L'auteur, c'est Stanley Coren, il est psychologue, mais en fait, voilà les données des accidents de voiture en Israël, en fait, des accidents de voiture individuels où la fatigue était la cause des accidents. Et ce qui est important, c'est que c'est le temps de la journée qui est en bas. Et voilà les deux temps de la journée où il y a plus des accidents. Le bar le plus haut, c'est 2 à 3 heures de la nuit, c'est-à-dire quand on croit qu'on est profondément dans le sommeil normalement. Mais aussi, il y a l'après-midi, les heures de la sieste, où il y a aussi une augmentation des accidents de voiture. Il y a des autres données aussi qui vont démontrer la même chose. Ça, c'est tout simplement un exemple avec les accidents de voiture. Et tout ça nous fait penser à l'importance du point de vue décision. Parce que voilà, il y a beaucoup de décisions différentes qui font un accident finalement. On aimerait bien savoir exactement lesquelles sont les décisions qui sont plus affectées par la fatigue. Donc, je vais vous parler de deux expériences différentes, une expérience individuelle de choix de risque. Et à notre expérience de la confiance, qu'on avait déjà eu les explications de ce jeu de la confiance. Mais c'est pour faire la connexion un peu avec les émotions, parce qu'il y a beaucoup de recherches dans privation de sommeil et les décisions, mais pas trop de recherches avec les décisions plutôt cortex frontal, les décisions de raisonnement. Ça a été toujours plutôt des trucs moins haute raisonnement. Mais dans cette expérience ici, vous pouvez imaginer le choix d'entre deux choix risqués où il y a des chiffres, de l'argent dedans, de toutes les boîtes. Et si on préfère le choix risqué A, par exemple, dans tous les deux, il y a une chance sur trois de tirer à sort l'un ou l'autre couleur. C'est-à-dire, proportionnellement, on peut avoir l'orange qui va vous donner 20 dollars, ou le bleu ou le vert qui va vous donner 10 dollars. Mais on peut préférer le choix risqué B, qui a au moyen, on va gagner la même quantité, mais il y a plus de variance. C'est un choix risqué, même plus risqué. Et voilà, il faut faire un choix entre les deux, et on fait les sujets à faire beaucoup de ces choix pour voir si on préfère plus ou moins de risques. Et parfois, on fait que les gens choisissent entre les choix risqués dans le domaine des pertes aussi. Voilà, le même genre de jeu, mais il y a des signes négatifs devant tous les chiffres. Et bon, avec cette expérience, j'ai quelques données, des jolies images de cerveau, voilà. Mais ce qui est important ici, j'essaie de le faire très simple, ce qui est important, c'est que, en fait, ici, on montre que les images dans la condition des pertes, quand on choisit le choix plus risqué. Ce qui se passe dans la condition des gains, c'est peut-être logique et c'est complémentaire à ce qu'on a trouvé dans ce genre de recherche sommeil et décision, c'est que les centres de raisonnement sont impliqués dans ce genre de décision de risque, mais quand on souffre de privation sommeil, et ici il faut dire que c'est privation de sommeil totale de 24 heures, qui n'est pas l'expérience commune, mais bon, c'est contrôlé dans le laboratoire quand même. Mais quand on est privé de sommeil, tous ces centres de raisonnement, il y a moins d'activation, en principe. Ici, il y a ces mêmes conclusions, il y a moins des activations, ça c'est les zones bleues, moins des activations dans la condition des pertes, dans les zones plutôt raisonnement, mais ce qui est différent, et intéressant, c'est que dans les zones de l'insula bilatérale, qui est plutôt région d'émotion, il y a plus d'activation dans la condition de perte quand on est privé de sommeil. C'est-à-dire, ça démontre que voilà, quand on est privé de sommeil, il peut y avoir plus des activations dans quelques régions d'émotion. Ça ne dit pas si c'est mieux ou pire d'avoir plus ou moins d'émotions dans les décisions, mais ça nous dit quand même que ça change les décisions. Et ça, c'est important. Comme première conclusion, c'est important. Et voilà. Le cerveau utilise moins les régions de raisonnement, et au moins quand il y a peut-être plus de peur quand on choisit entre les deux choix risqués, conditions des pertes. C'est peut-être ça qui va attirer plus les émotions dans cette expérience. Mais voilà, c'est une autre expérience maintenant. Ça, c'est les résultats de ce jeu de la confiance que j'ai fait avec un autre collaborateur. Et je n'ai pas le temps pour tout expliquer de la figure, mais on peut dire tout simplement qu'il y a de la recherche qui nous disent que je viens de démontrer quelques zones dans le cerveau qui ont plus des activations de l'émotion quand on est privé de sommeil. Il y a d'autres recherches aussi qui impliquent l'amygdale, c'est bien dit, mais l'amygdale qui a plus de l'activation aussi en privation de sommeil. Et voilà, nous émettons l'hypothèse d'une augmentation de la réponse émotionnelle. Mais dans le jeu de la confiance, on pourrait dire qu'il y aura peut-être moins de la confiance, parce que le fait de faire de la confiance, ça, il y a des émotions là-dessous. Il y a des émotions, il y a un risque. On peut avoir peur d'être exploité dans la relation. Et en fait, la différence entre ces deux lignes, voilà, tout simplement, ça veut dire que c'est vrai que dans la condition de privation, quand on était privé de sommeil, ici, c'était un peu plus extrême, c'était 35 heures de privation de sommeil total. Voilà, c'est un peu extrême, mais je souffre décalage horaire maintenant. C'est à peu près pareil, peut-être, je ne crois pas. Mais de toute façon, on a l'évidence qui va nous dire qu'on fait moins de la confiance quand on est privé de sommeil. Et encore une fois, on ne peut pas dire que ça, si c'est mieux ou pire d'avoir plus cette baissement de la confiance quand on est privé de sommeil. Ça dépendra du contexte de la décision, j'imagine. C'est peut-être bien d'avoir les décisions un peu plus contrôlées par l'émotion si on est dans une intervention militaire, par exemple. Mais si on fait le jeu de la confiance entre des amis dans le contexte social plus normal, c'est peut-être pas trop bien de faire moins de la confiance. Ça dépendra du contexte, je crois. Mais bon, finalement, les points principaux à retenir d'ici, c'est simple, c'est que moi j'aime bien penser qu'il y a ces deux systèmes de cerveau. On a parlé de ça, les autres de mes voisins ici, qu'il y a ce système de raisonnement et l'autre système plutôt émotionnel, et tous les deux contribuent dans les décisions. Mais ce que j'ai trouvé, ce que les autres chercheurs ont trouvé, c'est qu'il peut y avoir plus de contributions émotionnelles quand on est en privation de sommeil. Et il y a une connexion avec les émotions, pas tout simplement parce qu'il y a les mêmes zones de cerveau qui sont actives ou pas, mais plus basiquement, on sait tout le monde que quand on est fatigué, on est un peu grognon, mal humeur, voilà, il y a les émotions qui sont là. Et en conclusion, ce sont des effets de la privation de sommeil un peu plus cachés que voir les accidents ou des gros échecs. Ce sont des effets de comportement qui sont plus difficiles à voir de temps en temps. Et voilà.
Merci beaucoup. Le temps a passé très vite, mais j'aimerais quand même vous donner la parole pour quelques questions. Voilà. Il y a des micro-baladeurs dans la salle, je crois.
Mais bonjour. La question que j'ai à vous poser, c'est que se dégage de vos différents exposés que les agents économiques ont besoin d'une dose d'émotions positives. La bienveillance, la confiance, et donc aussi d'un sentiment de justice. Et pourtant, il semble aussi que l'économie ait besoin d'une dose d'émotions négatives, le stress, la volonté de faire peut-être mieux que les autres et peut-être aussi la colère vis-à-vis de l'injustice. Donc ce que j'aimerais savoir, c'est si la science économique peut nous donner des indicateurs sur la place où mettre le curseur entre les deux, entre émotions positives et émotions négatives pour avoir une économie viable et efficace.
On va peut-être prendre deux ou trois autres questions.
Oui, je voudrais savoir si toute cette recherche que vous avez présentée prévoit aussi une amélioration des styles de vie et de l'être humain. Donc on a parlé des émotions, on a parlé du sommeil, du sourire. Et je voudrais savoir si, voilà, s'il y a des propositions pour une amélioration des styles de vie des individus. Merci.
Dernière question.
Oui, merci. Je découvre avec intérêt vos travaux. Cependant, je me demandais si vous ne pensiez pas que les psychologues ou les neurologues avaient un avantage comparatif en fait, à effectuer ces études sur les émotions. Et je voulais également savoir quelle était pour vous la plus-value de l'économiste sur ce type de travaux et quelles étaient vos formations de base, en fait, d'origine, si vous vous sentiez plus psychologue, plus neurologue, surtout quand on voit la complexité de l'étude du cerveau. Donc je me demandais si vous étiez de formation neurologue, notamment. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Bon, je vais proposer à chacun d'entre vous de faire une réponse brève sur les quatre questions qui ont été retenues. Je pense que peut-être David, tu peux commencer.
Voilà, oui, je vais commencer. En fait, c'est vrai que je ne suis pas neurologue. On n'est pas comparativement avantagé en ça, mais on collabore avec ces gens-là. C'est comme ça qu'il y a de la recherche intéressante en coopération avec des psychologues et des neurologues. Et pour l'autre question, oui, il y a des études là-dessus, c'est plutôt les psychologues sommeil qui recherchent le temps de la réaction et ça change avec privation de sommeil. Normalement, ça prend plus de temps pour réagir, je crois, mais ce qui est plus important, à mon avis, c'est que même si c'était moins de temps dans quelques contextes, quand on est privé de sommeil, ça peut démontrer qu'en fait, on fait les décisions différemment. C'est-à-dire, ça prend plus de temps pour raisonner. Et si on, tout simplement, si on fait une décision comme ça, vite fait, ça peut être que tu as une règle dans la tête et ça fait possible de réagir vite fait.
Moi, je ne suis pas économiste et je ne suis pas non plus neuroscientifique. Je viens de la philosophie à la base et ensuite de la communauté des sciences cognitives, précisément parce que c'est une communauté suffisamment ouverte et interdisciplinaire pour poser plein de problèmes sur les fonctionnements, les mécanismes de décision à partir de travaux neuroscientifiques. Donc, disons que j'organise mes travaux avec des collaborations pertinentes à chaque fois. Pour répondre à la question qui a été faite sur est-ce que ce genre de travaux, enfin en tout cas ceux que je connais, peuvent améliorer la qualité de la vie, je pense que c'est une question extrêmement importante de passer, d'essayer de réfléchir sur les implications, les policy implications, les implications en termes de politique publique des travaux neuroéconomie. On n'en est pas là vraiment. Disons que je trouve que la neuroéconomie pour l'instant est restée assez confinée et de manière légitime par ailleurs à l'exploration des bases neuronales de la décision dans des situations qui sont héritées de la théorie de la décision et de la théorie des jeux, et que ça va demander une sorte de mutation épistémologique pour passer à des questions plus macro, en fait. Mais pour ma part, je l'anticipe et j'y réfléchis, et par exemple, je soulève juste un point comme ça, il y a une approche très connue, philosophique également, qui s'appelle la capacité approche, l'approche des capacités humaines, défendue par exemple par Amartya Sen ou Dasgupta, des gens comme ça. Et aujourd'hui, on en est au point où les travaux sur la santé, sur la neurobiologie, sur les maladies infectieuses, beaucoup de contributions biologiques vont donner un sens extrêmement précis à ce qu'on appelle une capacité. Et donc, ça va aider à mieux comprendre le développement humain. C'est une piste parmi d'autres.
Oui, donc très rapidement, il y a plusieurs questions. Sur la question de... j'ai oublié les termes que vous avez utilisés, le premier intervenant, mais... Je voulais mettre l'accent sur le fait que l'évolution de nos capacités a eu lieu pour la grande plupart de notre préhistoire dans des conditions très différentes de la société d'aujourd'hui. Donc, il y a certainement des pathologies liées au fait que nous essayons maintenant de naviguer dans une société complètement mondial, extrêmement compliqué, utilisant avec les outils qui ont été développés pour une société de chasseurs-cueilleurs où la plupart des relations étaient en vis-à-vis. Peut-être des cas les plus récents concerne la crise financière où il y a eu une tendance auprès de beaucoup de participants du système financier à essayer d'anticiper leur participation dans une bulle spéculative, se félicitant chacun de sa capacité stratégique de sortir du marché avant que la bulle s'éclate. Or, nous savons que dans les sociétés de primates, cette capacité de faire l'anticipation stratégique du deuxième, du troisième degré de l'autre et d'avoir un peu l'avantage sur l'autre en anticipant ses réactions peut être extrêmement adaptif. Les individus qui y réussissent, réussissent très bien. En revanche, quand il y a tout le monde dans le système financier qui pense qu'ils peuvent monter l'escalateur de la bulle immobilière ou financière et de sortir au bon moment, ça crée une pathologie collective spectaculaire. Donc il est clair que les comportements qui étaient soit individuellement adaptés, soit socialement plus ou moins positifs dans une société de chasseurs-cueilleurs peuvent devenir extrêmement pathologiques dans les conditions d'aujourd'hui. Pour juste dernier point sur la question de est-ce qu'il y a des leçons à tirer sur les bénéfices collectifs à tirer de ces études. Tout d'abord, un point historique. Il ne faut pas oublier que la confiance sociale nous a enrichis non seulement sur le plan purement économique, mais sur le plan de la sécurité de notre vie. Maintenant, le risque, par exemple, de mourir aux mains d'une autre personne est à peu près le dixième du risque qui était encouru par nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. J'en ai parlé dans mon livre, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Pour l'avenir, je crois que intégrer l'idée que les émotions font partie de la vie rationnelle est extrêmement important, à la fois pour la discussion économique et pour la discussion politique. Quand nous voyons, par exemple, que l'utilisation de l'émotion pour avoir des discours politiques contre les gens que nous n'aimons pas ou qui sont la cible d'attaque de certains groupes politiques, ne doit pas conduire à ceux qui veulent résister à l'idée de vouloir bannir les émotions de toute discussion de la rationalité. L'émotion ont leur part dans la vie rationnelle et je crois que accepter leur rôle et leur place intégrale dans la vie rationnelle est essentiel pour faire du progrès dans ce domaine.
Merci beaucoup. Pour terminer très brièvement, oui, les mots de la fin.
Oui, enfin, merci. Non, vous vous demandez ce qu'on fait là, au fond. Pourquoi est-ce qu'on est là, dans une journée d'économie, à parler des émotions? Enfin, c'est évidemment amusant, ça change un peu, c'est rafraîchissant. Mais est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Disons que nous sommes des scientifiques, des chercheurs. Nous essayons de voir ce que nous pourrions trouver. Nous essayons tous, chacun de nous, de contribuer à l'amélioration à long terme de l'humanité, bien sûr. Au fond, là, les économistes retournent un peu aux sources, hein, et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire qu'il y a un siècle environ, l'économie, la psychologie notamment, étaient très liées. Et les grandes intuitions économiques, c'est-à-dire l'étude du comportement humain, viennent de la psychologie. Et les économistes, donc, s'inspiraient très ouvertement des psychologues. Et puis, il y a eu un mouvement assez brutal vers la fin du siècle dernier, au début de ce siècle, au début du 20e siècle, pardon, j'oublie qu'on est au 21e, pour séparer ces deux disciplines, qui sont vraiment séparées aussi dans nos enseignements, dans nos universités. Et maintenant, on y revient. Voilà, c'est tout. C'est donc ce retour auquel nous assistons dans la science, et peut-être que, effectivement, cela, au lieu de maximiser le revenu social, un jour, on va essayer de maximiser le bonheur social. Voilà.
C'est un très beau mot de la fin. Je remercie à nouveau nos quatre intervenants pour la qualité de leur présentation. Merci beaucoup.